9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et on parle de cette soirée spéciale sur France 2, Philippe, avec nos invités, Lorraine de Fouché et Jérémy Frey.
Bonjour Lorraine de Fouché.
Bonjour.
À côté de vous, Jérémy Frey, bonjour.
Bonjour.
Vous venez pour un documentaire très très fort que vous avez co-réalisé, ça passe ce soir sur France 2, Féminicide, ça sera suivi d'un débat, on va en parler. Ce doc est un autre versant d'un supplément du Monde qui a enquêté pendant un an sur les 120 féminicides perpétrés en 2018, des hommes qui ont tué leur conjointe ou leur ex, mariée ou non. Le mobile, quand il y en a un, c'est sa compagne qui veut le quitter. Vous avez choisi de raconter 5 histoires de meurtre. Comment avez-vous choisi ces 5 cas ?
Alors, ce qui était important pour nous, c'est tout simplement d'aller vers des histoires où les gens acceptaient de nous parler. Parce que un des enjeux de ce film, c'est que c'est des faits qui sont très brutaux et très traumatisants, qui ont eu lieu dans un futur très proche. Donc, j'ai beaucoup dit ça, mais je le répète à chaque fois, c'est déjà de remercier le courage de tous ces gens-là qui acceptent devant une caméra de parler de choses aussi difficiles.
Et dont on voit les visages, et aussi, c'est assez rare pour te signaler, il y a les vrais noms. Prénom. Contrairement aux idées reçues, vous expliquez que le féminicide n'est provoqué ni par l'amour, ni par la folie. C'est un crime de propriété. Et ça commence par ceci. Il y a 5 cas qui sont développés. Le premier cas, c'est Laetitia. Vous montrez comment son conjoint commence à exercer un contrôle sur elle. C'est un couple qui marchait bien au départ. Ils ont 2 enfants. Elle a 2 enfants avec Julien. Elle a un métier, lui aussi. Et là, Julien, tout d'un coup, se met à contrôler son emploi du temps, à contrôler son téléphone. Il lui interdit de mettre du vernis à ongles, sauf quand elle est avec lui. Et ça va même plus loin que ça. Et c'est la cousine de Laetitia qui raconte.
Il lui avait jeté tous ses anciens sous-vêtements et il lui en avait racheté d'autres. Des sous-vêtements là, tout moches, tout couleur peau, enfin voilà. C'était du col roulé jusqu'en bas aux chaussures en fait. Il fallait que toutes les parties de son corps soient cachées. C'était sa manière à lui de garder une constante emprise sur elle.
Le contrôle est le meilleur indicateur de risque de féminicide. C'est ce qu'ont démontré plusieurs études. L'agresseur s'immisce dans les choix élémentaires de sa compagne, son apparence, ses relations sociales, pour ne lui laisser plus aucun espace de liberté. L'étape suivante, ce sont les coups.
L'étape suivante, c'est les coups, mais le contrôle, c'est vraiment le marqueur.
Oui, en fait, c'est ça, nous aussi, qu'on a voulu pointer avec ce projet. C'est que dans la conscience collective et dans le traitement des violences conjugales, il y avait beaucoup cette idée que c'était les coups et
bien
la gravité
sûr,
des coups.
Moi aussi, je vais vous le dire. Avant de voir votre documentaire, je pensais ça.
Voilà, et en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que les chercheurs qui ont vraiment, notamment les chercheurs anglo-saxons qui ont travaillé sur la violence conjugale, s'expliquent que le facteur de létalité, enfin l'un des plus importants, c'est le contrôle et la puissance du contrôle. Et donc, le contrôle n'implique pas forcément des coups. Ce qui fait aussi parfois qu'en France, on peut avoir du mal à évaluer la gravité des situations, notamment en termes de réponse des forces de l'ordre, parce que quand vous allez dans un commissariat, dans une gendarmerie ou même chez un procureur, il va évaluer la gravité d'un dossier en fonction de la taille des bleus, en fonction de la taille des blessures, en fonction du fameux indicateur qu'on appelle le nombre de jours d'ITT. Mmh. Mais sauf que le contrôle, en jour d'ITT, ça donne rien. C'est-à-dire que si vous allez dans un commissariat pour dire que votre ancien compagnon vous suit, qu'il a mis un traceur GPS sur votre téléphone, bah ça, c'est pas des blessures. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer cette forme de prédation dans le système judiciaire français actuel ? Bah, parfois, on se demande s'il n'y a pas un petit manque. Quoi.
Et encore, là, vous parlez du cas où la personne ou la femme vient témoigner, mais parfois, il y a même de la dénégation. On est complètement sidéré parce qu'on apprend. Julien, je continue cette histoire parce que c'est ce qui permet de comprendre ce qui se passe. Finit par donner des coups à Laetitia, mais elle-même invente d'abord auprès de ses proches et de ses collègues avoir subi une altercation dans la rue. Finalement, elle se décide à porter plainte. Son mari, Julien, a donc interdiction de la croiser et même d'aller dans sa commune, sauf qu'elle vit toujours sous son emprise, quand bien même ils ne peuvent plus se voir réellement, et ce sont là sa cousine et sa copine qui racontent.
Un jour, je lui avais envoyé un texto, et je lui ai dit, tu ne m'as pas répondu. Elle m'a dit, non, j'étais au téléphone avec Julien. Comment ça, t'étais au téléphone avec Julien? C'est quoi cette blague? J'ai dit, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de l'approcher, pourquoi t'es au téléphone avec lui? Non, il me l'a demandé, ou je sais plus ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, mais vous vous êtes dit quoi au téléphone? Ah ben rien, on a regardé le même film. Il veut juste m'entendre respirer. Donc j'ai dit, t'arrêtes ton cirque de rien entendre respirer, là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Enfin, jamais personne n'appelle l'autre pour l'entendre respirer devant le même film.
Je suis même pas certaine, jusque vraiment vers la fin, qu'elle ait réalisé qu'elle était vraiment, en fait, cloisonnée chez elle ou cloisonnée à quelqu'un.
Elle me dit, il me manque, je peux pas vivre sans lui.
C'est là où c'est complètement dingue. Elle ne peut pas vivre sans son bourreau.
Oui, mais en fait, c'est toute l'ambivalence de sa relation, toute la difficulté aussi. C'est-à-dire qu'en fait, le contrôle va énormément fragiliser la victime à des niveaux qui sont très, très profonds. Et résultat, bah, c'est difficile vraiment pour elle de s'en sortir face à un niveau de contrôle qui est tellement fort que c'est compliqué. Quoi.
Jérémy Frey, comment vous avez réussi à faire parler ces gens aussi librement? Ou alors on a l'impression qu'ils parlent librement parce que vous avez passé beaucoup, beaucoup de temps et nous, on voit que l'extrait qui est monté.
C'est tout à fait ça. Il y a eu un travail en amont important des journalistes du Monde. Des enquêteurs qui étaient en relation avec tous les témoins depuis longtemps, depuis un an. Et nous, quand on est arrivé pour faire les interviews, le travail de préparation était déjà fait et c'était très important parce que ça leur permettait de se livrer et d'être en confiance.
Toutes les images qu'on voit sont authentiques.
Tout à fait.
La maison, il y a des images de drones et on voit, il y a un type quand même qui s'est immolé par le feu avec sa compagne et l'enfant de 2 ans et on voit la maison filmée du dessus, c'est totalement saisissant. C'est pas de la reconstitution.
Non, on ne voulait pas de reconstitution parce que ça devenait vite assez vulgaire, voire un peu traumatisant parce que les faits sont très récents donc pour les proches. Et donc on a opté pour cette esthétique qui était plus à distance, et on a tourné, effectivement, on a été sur tous les lieux, drone, caméra, mais on a épluché tous les lieux, et tous les lieux aussi des signaux faibles qu'on veut décrypter dans le film, et pour les reconnaître.
On va parler d'autres cas, et de ces signaux faibles, justement, et je vais vous demander ce qu'on peut faire pour aider si, dans notre entourage, ce que je ne souhaite à personne, il y a des cas comme ceci.
Soirée spéciale sur France 2, on continue à en parler avec nos invités qui co-réalisent le documentaire Féminicide diffusé en première partie de soirée. Ça se passe sur France 2, je vous l'ai dit, c'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Soirée spéciale sur France 2, dès 21h05, Féminicide, l'affaire de tous, avec la diffusion du documentaire co-réalisé par nos invités, Lorraine de Fouché et Jérémy Frey, Philippe.
5 cas, 5 femmes tuées par leur mari ou leur compagnon que vous traitez ce soir dans ce documentaire. Il y a le cas d'Hélène Bizieux, son mari avait fait 8 ans de prison. Elle savait qu'elle avait fait de la prison, mais elle ne savait pas pourquoi. Et on découvre qu'il a tué quelqu'un quand il était plus jeune. Or, cette information ne figure pas dans le fichier TAJ, qui est le fichier du traitement des antécédents judiciaires. Or, justement, si ce fichier a été créé, c'est justement pour ça. Comment on explique ça? Comment on explique ce dysfonctionnement, Jérémy Frey?
Alors, nous, dans le documentaire, on épluche ces failles de la justice. Là, il y a eu plusieurs plaintes de déposer. La plupart du temps, ça remonte jamais au procureur. Donc on sent ici qu'il y a des failles, qu'il y a du travail à faire et c'est ce qu'on cherche aussi à démontrer avec ce documentaire, à le souligner et à faire bouger les choses.
Et on se demande toujours, Marie-Alice Dibon, c'est la 51e victime parce qu'en plus elles sont numérotées puisque c'est malheureusement une triste chronologie. On n'est pas du tout dans la France d'en bas, hein. C'est une scientifique émérite, elle travaille dans la Silicon Valley aux États-Unis, elle donne même des conférences, elle vit aux États-Unis, une autre en France et elle vient en France dans les années 2000, elle rencontre Luciano Merida, vous donnez les noms de tout le monde. C'est un chauffeur de taxi d'origine italienne et un jour elle prend son taxi et ils ont une petite histoire. Et là, il y a quelque chose d'assez fort, c'est vous faites parler une amie de Marie-Alice qui dit qu'elle était lucide pour les autres et naïve pour elle. Et elle avait même offert à une de ses copines un livre consacré au harcèlement moral en disant « tiens, ça va te faire du bien ». Et c'est ce qu'elle vivait elle-même. Là encore, je ne sais pas si ma question a un sens, mais comment on explique ça?
Bah, c'est des phénomènes de dissociation qu'on a constatés plusieurs fois. Hélène Bizieux aussi, par exemple, 4 ou 5 jours avant de mourir, elle publie sur son mur Facebook une photo de Marie Trintignant. Et donc, en fait, c'est des femmes. L'image dans l'inconscient collectif de ces femmes-là, c'est un peu des espèces de... Enfin, c'est des victimes pas formées, qui comprennent pas trop ce qui leur arrive et tout. On va s'apercevoir qu'en fait, non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Mais parce que je pense que l'erreur qu'on fait, c'est de pas comprendre à quel point ce sujet-là se joue au niveau émotionnel.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on pense que rationnellement, quand on est outillé pour ça, on va réussir à se défendre. Mais en fait, ça se branche tellement sur les failles, sur des émotions qui sont bloquées. On pourrait faire avec une comparaison, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, mais une comparaison avec la drogue. On sait que la drogue, rationnellement, c'est pas bien. Mais souvent, les consommateurs de drogue, ça peut être lié à certaines failles et ils vont continuer à y aller parce que ça va les aider à gérer certaines situations, même si rationnellement, c'est les premiers à dire que non, il ne faut pas faire ça. Ouais. Donc, ces phénomènes de dissociation entre la raison et l'émotion sont très fréquents dans les dossiers de féminicide.
Et là, dans le cas de Marie-Alice, c'est totalement compris parce qu'en plus, elle est militante féministe. Or, vous racontez que Luciano est raciste, réactionnaire, misogyne, macho. Chaud, tout ce qu'elle déteste, elle va rester 15 ans avec lui.
Oui, mais c'est sûr que de l'extérieur, c'est compliqué à comprendre. Mais je pense aussi, je ne veux pas parler à sa place, mais c'est une femme qui, quand elle décède à 52 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Et que je pense que ce n'est pas facile non plus d'être une femme seule qui vit entre deux pays et que Luciano lui sert aussi un petit peu de d'alibi pour répondre aux attentes sociales sur son positionnement conjugal.
Comment vous avez vécu ça, tous ces tournages, Jérémy Frey, pardon de cette cliché, en tant que garçon?
Alors, j'ai été forcément, ça m'a bouleversé, ça m'a retourné ce tournage, ce projet sur plusieurs mois, et je dirais que ce qui m'a frappé le plus, il y a deux choses. La première chose, c'est que on pense toujours à des monstres violents où c'est écrit sur leur front qui battent leurs femmes, etc. Et en fait, non. Là, dans le cas qu'on vient de dire, il n'y a pas eu de coup. Il y a une témoin dans le film qui raconte que on lui donnerait le bon Dieu comme sans confession. Elle dit d'un des auteurs de féminicide. Et en fait, c'est ça. C'est que c'est dans notre quotidien, ces signaux, c'est des signaux qu'on peut détecter chacun. Et c'est pas voilà, et ça peut être un peu monsieur tout le monde. Et l'autre chose qui m'a bouleversé aussi, c'est qu'on a eu en commun dans tous les témoignages, c'est que c'est toujours la parole de l'homme qui prime, quoi. C'est-à-dire que quand il y a un témoignage, c'est-à-dire que la femme, victime...
Attendez, c'est pas en train de changer? Parce que quand même, le mot féminicide est arrivé, il y a eu beaucoup, beaucoup de prises de conscience l'an dernier. J'ai l'impression que ça a changé, ou est-ce que je me trompe et je me fais des idées? Que maintenant, les femmes sont davantage écoutées dans les commissariats, dans les gendarmeries?
Ça va un peu mieux, mais il y a encore du boulot. Et c'est-à-dire que on le voit par exemple dans le film, c'est sur l'affaire de Sylvia Boucher qui meurt au barrage.
Ouais. Son mari la jette d'un barrage.
Son ex-mari la jette d'un barrage. Et son beau-frère, Asdine, au moment où Sylvia raconte un accrochage avec un couteau que lui aurait fait son ex-conjoint, le beau-frère, il va entendre le récit de Sylvia, il va se dire bon, c'est quand même assez spectaculaire, elle exagère. Il va aller voir l'ex-mari en lui disant bah, dis donc, qu'est-ce que t'as fait à Sylvia et tout. Et il va croire Ludovic.
Mais il y a aussi l'inverse que vous montrez. Il y a parfois cette femme gendarme qui est en larmes parce qu'elle découvre qu'elle n'a pas pu sauver Laetitia.
Oui,
il y a aussi une
bien
écoute.
Bien sûr, mais Lucy Bauer est plutôt une exception à la lumière d'une norme plus diffuse dans la gendarmerie.
Qu'est-ce qu'on peut faire si dans notre entourage, à notre insu, il y a des femmes qui vivent cette détresse? Quels sont, parce que vous dites que c'est l'affaire de tous, quels sont les signaux faibles qu'il faut détecter? Je voudrais qu'on termine par ça.
Moi, j'insisterai en fait sur le contrôle. C'est-à-dire que non, c'est pas normal que votre compagnon lise vos textos. C'est pas normal qu'il vous embête parce que vous parlez à un autre garçon. C'est pas normal qu'il contrôle la manière dont vous vous habillez. Mais parfois, ça peut vraiment être très insidieux. Genre, dis donc, elle est un peu courte ta jupe pour sortir. Ou, mais qu'est-ce que c'est encore que ces messages? Et tous les hommes qui font ces phrases-là finissent pas comme les cas dramatiques qu'on a traités.
Bien sûr.
Mais c'est vraiment l'idée de réussir à dissocier l'amour et la possession. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir.
Merci beaucoup pour cet éclairage. Je dois dire aussi qu'il y a un numéro spécial, un supplément spécial du Monde qui était sorti et qui éclairait également ce travail. Merci beaucoup Lorraine de Fouché, merci Jérémy Frey. Merci. Je rappelle, documentaire Féminicide, c'est ce soir à 21h15, suivi d'un débat animé par Julien Bugier avec la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa. Culture Média qui continue après le rappel des titres, place à la culture. Nous serons avec le cinéaste Cédric Clapiche, pour une soirée spéciale sur Canal avec un programme alléchant, la diffusion de son dernier film, Deux mois, suivi d'un documentaire portrait inédit, et puis dans les indispensables de l'humour avec Baptiste Lecaplain, spectacle à voir en ligne dès aujourd'hui, Loufoque, absurde, c'est recommandé par Luce Bernard, le livre Pacifique, l'histoire passionnante d'un jeune kamikaze japonais, tiens c'est joyeux ça, c'est Nicolas Carreau qui l'a lu pour nous, le journal de la culture d'Hélène Manarino dans un instant, et puis en fin d'émission, comme d'hab, le meilleur de ces portraits inattendus, aujourd'hui ce sera Loudoyon, juste après ça.